sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM comme tous les vendredis soirs avec l'Envolée. Vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, nous appeler au 01 40 05 06 01 ou
07 52 40 22 48.
Arthur,
ou, pardon, excusez-moi, sur les réseaux Facebook, Instagram, envolée.net. Autour de la table, nous avons Greg.
Salut.
Alex.
Salut.
Serge.
Salut tout le monde.
Faiza.
Bonsoir.
Et un proche qui parlera tout à l'heure.
Ouais.
Salut.
Et du coup, ce soir, on va d'abord commencer par un témoignage du Crat Vincennes qui a été relayé sur le blog Abat les Crats. On va revenir sur la mort de Toufik à Perpignan avec Faiza. Du coup, et après ça, on va revenir un peu sur le rassemblement qui a eu lieu à Meaux dimanche, auquel on avait appelé à l'émission de la semaine dernière. Après ça, on va parler de l'affaire du 8 décembre. On s'en était fait vite fait l'écho qu'il y avait eu des arrestations groupées. Et enfin bref, tout ça, on en reparle tout à l'heure. Et on va finir sur un petit passage sur la réforme des mineurs, en essayant de développer un peu ce que le gouvernement essaye de faire en ce moment. Du coup, là, pour commencer, on va vous lire un témoignage assez court. C'est une retranscription d'une vidéo qui est sortie sur abalekra.noblog avec un s.org. Ça vient d'une prison pour sans-papiers, celle de Vincennes, où il y a de plus en plus de personnes qui sont malades ou atteintes du coronavirus et où l'administration, enfin la préfecture, elle persiste à ne pas vouloir fermer le centre, à maintenir les gens un maximum enfermés, voire à essayer de les expulser quand c'est possible. Donc on vous lit la retranscription et on revient vite fait là-dessus.
Nous sommes 6 personnes dans une chambre. Les conditions sont très très mauvaises. Regardez, comme vous pouvez le constater, on a des boutons de partout. Il y a de la crasse par terre. On ne peut pas filmer dehors parce que c'est interdit. Mais ce matériel est fait pour tous les gens qui sont ici et qui sont dans la merde. On vit une vie de chien ici. C'est pire que la prison. On est dirigé par ces gens-là. Ils nous traitent comme si on était des esclaves. On ne peut rien faire de nous-mêmes. On est 6 personnes en 4 mètres carrés. Même les draps ne sont pas changés ici. C'est la misère. Je ne sais pas pourquoi le préfet fait tout ça. On est des gens très bien élevés, très bien éduqués, et voilà ce que nous donne la France, et surtout le préfet du Val-de-Marne. Il y a des malades du Covid. Hier, 7 personnes sont parties, car elles étaient malades du Covid. Plus de 20 cas. On est tellement désespérés. On ne sait pas quoi faire pour fuir, échapper à cette maladie, et à tout ce bordel du centre de rétention de Vincennes.
Ouais, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle de cette prison pour sans-papiers là, qui est au bout du bois de Vincennes, où en fait il y a pas mal de monde qui tombe malade. À chaque fois, la seule réaction, c'est d'empêcher les parloirs, d'empêcher les proches de venir ramener des affaires ou de soutenir les personnes qui sont enfermées dedans. Et voir des personnes qui sont mises au mitard, c'est aussi une prison pour sans-papiers où il y a beaucoup de répression pour les refus de tests PCR, donc ceux qui désignent si la personne elle est atteinte ou pas du Covid. Parce qu'on rappelle que c'est aussi un des moyens de refuser les expulsions en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de pays qui demandent des tests PCR négatifs de moins de 72 heures. C'est aussi une manière de rappeler que s'ils ont annoncé la fermeture des frontières, en fait, ce n'est pas la fermeture des frontières. Elle est fermée que dans un sens, et qu'eux, ils continuent d'expulser et de maintenir des pressions sur d'autres États pour qu'il y ait des expulsions qui se fassent, quoi. Et donc, au CRA de Vincennes, il y a eu des révoltes ces dernières semaines pour exiger la fermeture du centre, et pour exiger des soins corrects pour les prisonniers quand ils sont atteints de symptômes graves, quoi. Et c'était pour rappeler que là-bas, c'est une situation qui est hyper galère parce qu'il y a c'est en train de se transformer en ce qu'ils appellent un cluster, quoi, ou un foyer où il y a plein de gens qui sont malades. Mais en même temps, accepter de se faire tester et être négatif, c'est prendre le risque de se faire expulser immédiatement, quoi. Et du coup, les gens, ils sont obligés de refuser des soins, de refuser de savoir ce qu'il en est de la maladie. Pour ça, ils risquent de la prison. Parfois, en plein milieu de la rétention, les gens prennent 4 mois. À Vincennes, ça se passe comme ça. Et ça, c'est ce qui se passe dans pas mal de centres de rétention. Et c'est ce qui a amené à l'incendie du Ménil-Amelot il y a un peu plus de 2 semaines, dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est 45 places qui ont brûlé au Ménil-Amelot et 8 personnes qui sont placées en détention provisoire ces dernières semaines.
On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a un rassemblement de soutien qui s'est passé dimanche dernier. Et donc voilà. Plein de force à eux, en tout cas à l'intérieur. C'est important s'ils nous écoutent, et de l'extérieur, on peut toujours les aider. Ne pas oublier qu'on peut appeler aux cabines. C'est sur le site abalekra.noblog.org. Vous avez toutes les infos et puis comment aussi le faire correctement. Donc ne pas hésiter. On est avec Faïza aujourd'hui. Salut Faïza.
Bonsoir.
Ça fait quelques temps qu'on échange par téléphone. On avait eu ton oncle qui nous avait appelé en fin d'année dernière, parce que ton frère est décédé alors qu'il était emprisonnier à Perpignan. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé pour vous ?
Oui. Alors, mon frère est décédé le 18 octobre. On a appris ça le 9 novembre par les
services d'état civil.
C'est ça. En fait, le 31 octobre, il y a un détenu qui est sorti de la prison de Perpignan qui a rencontré mes frères à la cité et qui ont dit à un de mes frères... Renseigne-toi, il y a eu un meurtre en prison. Renseigne-toi auprès pour ton frère. Du coup, mon frère, il s'est précipité, il en a parlé à ma mère. Ils ont appelé, ma mère et mon frère, ils ont appelé le centre pénitentiaire de Perpignan. Ils leur ont demandé, ils leur ont dit, voilà, il y a une rumeur qui tourne comme quoi il y a eu un meurtre. On voudrait savoir, est-ce que c'est mon frère qui a tué ou c'est mon... si c'est mon fils qui a tué ou c'est mon fils qui est décédé. Ils lui ont dit non, il n'y a rien, il ne faut pas écouter les rumeurs. Il ne faut pas écouter surtout les rumeurs, il n'y a rien. S'il y aurait eu quelque chose, on vous dira nous-mêmes. Du coup, la dame au téléphone, elle a dit à ma mère, moi, je ne peux pas vous donner plus de renseignements, mais il ne faut pas écouter les rumeurs. Il faut rappeler le lundi 2. Le lundi 2 novembre, ma mère rappelle. Elle est tombée sur le service. Elle leur a dit comme quoi elle les avait appelés samedi, qu'ils ne pouvaient pas donner de renseignements. Elle leur a dit, madame, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, nous-mêmes, on vous appelle. De là, ma mère et mon frère, ils ont eu la conscience tranquille. Il n'y a rien, il n'y a rien. De plus que mon père, il faisait des mandats à mon frère tous les mois. Pour nous, il touchait ses mandats. Il était bien. Ils nous ont vraiment rassurés, en fait, au téléphone, en disant, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas écouter les rumeurs. S'il y a quoi que ce soit, nous, on vous contacte. C'est bon, on est resté tranquille. Le 2 novembre. Une semaine après, le 9 novembre, l'état civil appelle en disant que ils appellent son ex-femme. Hein. Ils appellent son ex-femme en disant est-ce que je suis bien avec la femme de Bedretri Toufik? Elle lui dit je suis son ex, mais j'ai 3 filles avec lui. Ils lui ont dit, voilà, c'est pour vous dire qu'il est décédé. Elle leur a dit, vous êtes sûre? Ils lui ont dit, oui, oui. Bedretri Toufik est bien décédé. De là, ma belle-sœur, elle est partie précipitamment. Elle habite pas loin de chez mes parents. Elle est partie voir mes parents. Elle est partie, elle a trouvé ma mère. Elle lui a dit, Ouria, j'ai un truc à te dire. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, Toufik est mort. Elle lui a dit, non, c'est pas possible, j'ai appelé, ils m'ont dit qu'il était bien. Elle lui a dit, non, j'ai l'état civil qui m'ont appelé et qui m'ont déclaré son décès. Il est mort depuis le 18 octobre. Mes parents, ils se sont pris. Ma mère est partie voir mon père, qui était chez ma sœur. Et elle lui a dit, mon ex-belle-sœur a dit à mon père, Toufik, il est mort. Et du coup, de là, on était choqués. Ils y croyaient pas parce qu'ils avaient appelé auparavant le 31 et on a rappelé le 2. Ils lui ont dit que tout était bien alors qu'il était mort depuis 3 semaines, en fait. Du coup, de là, mon père, il est parti précipité à l'état civil. Il est parti vraiment demander est-ce que c'est vraiment lui ou une erreur ou... Et de là, on a essayé de... On n'était tous pas bien. Moi, je suis de Paris. Je suis descendue. Et j'ai demandé à l'avocat de demander au procureur que si on ne voyait pas le corps, on ne ferait pas le deuil. Parce qu'en fait, on n'avait pas le droit d'aller... On était parti à la morgue et on nous a interdit de voir le corps. Et du coup, on est parti à... On a demandé à l'avocat de faire cette demande. Il a fait cette demande. Au début, ils ont dit à mes parents, avant que j'arrive, moi, ils ont dit « Non, vous ne pouvez pas voir le corps parce qu'il est très abîmé. » On leur a dit « Abîmé de quoi ?» Si c'est un bout de viande qu'il a tué, ça ne va pas le bouffer, quoi. Et du coup, j'ai fait les démarches. On a eu l'accord quelques semaines après. Hein. On n'a pas pu voir le corps. Déjà, 3 semaines, il était décédé. Plus les démarches qu'on a fait, on a vu le corps plus de 1 mois, quoi. À la morgue, il était. Une fois qu'on a vu le corps, c'était là qu'on a vraiment cru à sa mort, quoi. Et moi, je suis partie au centre pénitentiaire. Mes parents, ils étaient dans un état... Je suis partie au centre pénitentiaire, j'ai vu le directeur de la prison. Je leur ai dit, comment ça, c'est une faute grave? Comment l'administratif de la prison n'ont pas pu nous prévenir? Ils me disent, non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de numéro de téléphone. J'ai pris une feuille que j'avais sur moi, parce que je n'avais pas le droit de rentrer avec mon téléphone au centre pénitentiaire. Je leur ai dit, vous tapez Bedretri sur l'annuaire. Il y a beaucoup de Bedretri. C'est impossible que l'état civil, ils ont à peine tapé Bedretri, ils nous ont trouvés, quoi. Et ils nous ont contactés. Du coup, ensuite, de là, il m'a dit, nous, on n'avait aucun. Et quand je lui ai tiré les 4 mandats que mon père lui faisait, il était choqué, le directeur. Je lui ai dit, mon père, il faisait des mandats tous les mois. Ça veut dire que
Ils avaient un nom.
Ils avaient un nom, quoi, parce qu'on ne fait pas un mandat comme ça. Il y a un nom, il y a un numéro de téléphone, il y a tout. Et de là, ben, je suis repartie bredouille, parce que ils sont plus puissants que nous, en fait. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont plus de... On ne peut rien faire.
Bah on va revenir là-dessus sur toutes les démarches que vous avez essayé de faire et tout ça. Et c'est une lutte qui est super compliquée.
Oui.
Parce que, enfin, voilà, en plus, toi, t'es loin. Enfin, voilà, c'est... et donc, ouais, ce qu'ils disent, l'administration pays, enfin, les médecins et l'administration pénitentiaire, c'est que Taoufi, il serait décédé en s'étouffant en mangeant de la viande.
Ben, en fait. Nous, on nous a appelés, ils nous ont dit il est décédé. Moi, je suis partie voir le... Je suis partie au centre pénitentiaire. Il est décédé de quoi ? D'un bout de viande. Voilà, oui. C'était un repas de midi. Et il s'est étouffé avec un bout de viande. Je leur ai dit, on peut vous croire, mais pourquoi 3 semaines, à presque un mois après, nous prévenir à sa mort ? Un bout de viande, c'est rien. Vous nous appelez, vous nous dites il est décédé d'un bout de viande. On va à l'hôpital le voir. Il ne serait même pas encore à la morgue. Parce qu'apparemment, il était branché 4 jours avant qu'il décède.
C'est ça.
Il était branché 4 jours. Je sais qu'un centre pénitentiaire, quand ils ont comment on appelle ça ?
Des urgences ?
Ouais, des urgences comme ça, avec des détenus.
Ouais.
Des détenus. Je sais qu'ils ne préviennent pas. Mais ils ne préviennent pas quand c'est une rage de dents. Quand c'est cassé un bras ou une jambe, mais quand c'est des critiques graves comme ça, ils auraient pu nous appeler, nous dire venez, on va le débrancher, ou ils l'ont débranché même sans nous, quoi.
Bah oui.
Ils avaient même pas le droit de le débrancher. Ils auraient pu nous appeler, nous dire voilà, il est là, venez lui dire au revoir, ou je sais pas, moi c'est, nous on a franchement, moi et ma famille c'est très dur pour nous.
Bah bien sûr.
On n'y arrive pas, quoi, à y croire, quoi. On ne croit pas trop à ce qu'ils nous disent.
Bah, et c'est normal, parce que vu la manière dont ils ont fait les choses, à ne pas chercher, à vous contacter pour vous prévenir de la situation, à, comme tu dis, vous auriez pu lui dire au revoir.
Oui.
Voilà. Ils n'ont rien fait
surtout
correctement.
Je vous coupe, désolé.
Non, non,
surtout qu'en plus, il était connu. Ce n'était pas sa première incarcération. Mon frère, il n'est jamais rentré pour un meurtre.
Mm-mm.
Et du coup, il se fait tuer. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est rentré parce que c'était un meurtrier. Il rentrait parce que c'était des petits délits. Par exemple, des conduites sans permis ou... vous comprenez, c'était des petits... C'était pas un meurtrier, c'était pas quelqu'un de méchant.
Bon, après, on pourrait... Enfin, même s'il serait un meurtrier, il mériterait pas de se faire tuer à l'intérieur. La peine de mort est abolie en France.
Oui,
mais t'as... Ce qui est important dans ce que tu dis, il me semble, c'est que, en fait, vu qu'il avait fait quelques allers-retours, en fait, ils avaient dans leurs papiers
voilà,
des informations,
oui,
voilà, même grâce au mandat et autres. Et donc, en fait, c'est juste qu'ils ont même pas cherché une seule seconde à essayer d'avertir quelqu'un. Et quand ta maman va les voir en leur disant « il y a un problème », ils disent « Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. » Alors qu'à ce moment-là, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, vous ne le saviez pas, il était déjà décédé, quoi. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'ils avaient à cacher ? Qu'est-ce qu'ils avaient qu'est-ce qu'ils avaient à cacher pour ne pas vous dire la vérité ?
Ben nous, pour nous, ils ont caché quelque chose, en fait. Nous, pour nous, personnellement, moi et ma famille, s'ils ne nous ont pas déclaré son décès, alors que c'est un bout de viande qui tue, moi aussi, je pourrais m'étouffer demain avec un bout de viande. Mais prévenez. Mon frère, on est 4 générations. On est, je veux dire, ils auraient pu, s'il aurait voulu taper juste belle rétrie sur l'annuaire, il serait tombé. Le directeur lui-même, il nous aurait appelé, voilà, il faut aller à l'hôpital, Toufik va décéder, ou il est décédé. C'est un bout de viande, c'est rien. On l'aura pas voulu, quoi. On n'aura pas voulu, parce qu'il est mort d'un bout de viande. Mais là, de le cacher 3 semaines, sans rien nous dire, surtout que nous, entre-temps, on avait appelé pour demander, surtout qu'il y a eu des rumeurs, on a demandé, et ils n'ont toujours pas voulu dire quoi que ce soit. En fait, ils ont voulu cacher des choses pour nous. Mmh. Pour nous, c'est comme ça.
Bah, bien sûr.
Après, peut-être je me trompe, mais pour nous, c'est comme ça.
Mmh. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on en avait pas mal parlé ces derniers mois. Il y a une vraie science pour les administrations, là, que ce soit policière, pénitentiaire, etc., pour gagner du temps quand il y a des morts, quoi. Ça, c'est la même chose qui se passe dans les commissariats. Il y a plein de collectifs qui ont montré comment ils arrivaient à gratter les premières heures qui, en fait, permettaient d'effacer des trucs, permettaient de mettre les PV, etc. Et en fait, là, c'est exactement la même chose, quoi. À chaque fois, l'administration pénitentiaire, à chaque fois qu'il y a un mort, elle essaye de soit faire que le corps il soit vite transféré au bled, si c'est possible. Elle essaye de faire en sorte que les gens ils soient prévenus le plus tard possible, qu'ils aillent pas voir le corps. Et du coup, ça rend toujours les trucs hyper compliqués pour après obtenir vérité et justice. Et du coup, c'est pas juste des oublis de checker un numéro ou un mandat. En fait, c'est des véritables calculs pour réussir à toujours vesqui. Parce que à l'inverse, s'il y avait eu besoin d'enquêter ou de faire du pénal sur des proches, en fait, là, le mandat, il l'aurait pas oublié, quoi. Et le fait que ce soit une autre administration qui soit pas spécialement mandatée par l'administration pénitentiaire qui vous contacte, ça montre bien que eux, ils auraient pu vous laisser galérer pendant longtemps. Mmh. Et que du coup, tout ça, c'est des semaines et des semaines de gagner. Et que, enfin, c'est vraiment l'exemple type, quoi, de comment la paix, elle peut.
On dirait que, en fait, nous, on a demandé à ce qu'une autopsie soit. En fait, la première fois que je suis allée à Perpignan, voilà. Si on ne voyait pas le corps, pour nous, mon frère, il n'était pas décédé. Parce que, voilà, c'était louche. On s'est dit peut-être que c'est d'autres personnes qui sont décédées, qui ont dit que c'était tout fixe. Parce que pour nous, c'était louche. Il fallait qu'on voie le corps. Déjà, on n'avait pas le droit de voir le corps, c'était bizarre. Et du coup, moi, j'ai bien expliqué à l'avocat, parce que mes parents, ils étaient faibles à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, mon frère, il est décédé avec un bras en moins ou un pied en moins, mais il faut qu'on le voie. Même s'il est sans tête, mais il faut qu'on le voie. Il faut qu'on... pour faire le deuil et pour qu'on sache qu'il est vraiment décédé. Et de là, bon, on a fait un peu... C'était à nous, en fait, de nous bouger, quoi. Mm. Pour que le procureur nous donne l'accord comme quoi on peut rentrer. Mm. Et du coup, ben, on est rentré, on a eu le droit à cet accord. Mais c'est vrai que, comme il a dit, votre collègue, ça serait l'inverse. Ça serait mon frère, par exemple, il serait fait tuer par un détenu. T'inquiète pas qu'ils auraient fait l'enquête.
Bah, ça, c'est sûr.
Et qu'ils nous auraient appelés.
Et juste encore, enfin, pour rajouter un peu là-dessus, parce que voilà, c'est encore une fois les prisonniers qui ont raison dans cette histoire. C'est encore une fois les prisonniers qui sont venus vous voir, qui vous ont averti de ce qui se passait, qui avaient raison. Et quand ils vous ont prévenu, ils vous disent la vérité, vous appelez l'administration pénitentiaire, elle vous ment. Et après, derrière, ils sont bien obligés de dire quelle est la vraie situation. Mais donc, c'est toujours important, ce truc, il faut croire les prisonniers et ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qu'on répète à cette antenne tout le temps pour plein d'autres histoires. Quand les prisonniers dénoncent des violences, à chaque fois, il faut les croire. Voilà. Et là, c'en est un cas encore explicite, quoi. Enfin, il faut croire les prisonniers. Et donc...
Ouais. Excusez-moi.
Vas-y.
Du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai l'impression qu'en fait, ils nous font galérer parce que nous, mon frère, on veut le rapatrier. Et pour eux, s'il est rapatrié, pour eux, l'enquête est close. Il n'y aura pas de... Parce que 4 mois, nous, normalement, mon frère ne reste pas 4 mois à la morgue. On aurait bien voulu le rapatrier. Mais nous, on veut justice, en fait.
Oui. Parce que alors, c'est ça, on n'a pas
nous,
encore...
Nous, en fait, cette autopsie, c'est elle qui va nous donner la vérité pour nous.
Parce que c'est ça qu'on n'a pas encore développé, c'est que pour l'instant, donc depuis le 18 octobre,
oui.
Il n'y a toujours pas eu d'autopsie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une enquête pour mort suspecte, je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, qui a été lancée, mais ils ont refusé de faire une autopsie pour l'instant. Les avocats font ce qu'ils font, voilà. Mais pour l'instant, les juges qui sont en charge de cette affaire n'ont toujours pas ordonné d'autopsie.
Toujours pas.
Donc là, pour l'instant, le corps de Taoufik, il est toujours à la morgue. Vous avez reçu un certain nombre de pressions de la part de policiers, de la part de la morgue, en tout ça, en disant « il faut le récupérer ».
Oui.
Sauf que vous, c'est hyper dur pour vous. Enfin, moi, je me souviens avoir des discussions avec toi, avec ta maman aussi, qui disait, nous, on a besoin de faire notre deuil, on a besoin de faire un enterrement. Et en fait, vous êtes, votre désir de vérité, il va au-delà de ça, mais donc vous êtes dans un étau, quoi.
Franchement, on a eu des pressions. Il y a la police criminelle, je crois que ça s'appelle. Ils ont appelé mes parents en disant, il faut débarrasser le corps. Débarrasser, déjà, mon père, il n'a pas avalé. Ouais. Il ne fallait pas lui dire débarrasser parce qu'il a dit... en fait, il était tellement énervé, il m'a dit, appelle l'avocat et dis-lui... La pilule n'avait pas passé, en fait. Quand il lui a dit débarrasser, il m'a dit, mon fils, ce n'est pas une poubelle. Parce qu'on ne dit pas débarrasser. Et ils lui ont mis la pression, il faut débarrasser le corps... du coup j'ai appelé l'avocat, je lui ai mis un peu la pression, je lui ai dit écoute, déjà mes parents ils sont pas bien, mais en plus leur mettre la pression comme ça et tout, ça va pas quoi. Du coup l'avocat il a fait les démarches, il a appelé la police criminelle, il s'en est chargé, il leur a parlé et tout, il leur a dit c'est moi qui m'occupe de l'enquête, patin couffin. Et du coup depuis là ils ont pas rappelé, ensuite on a eu la morgue qui nous a appelé quand même. Et qui nous ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire du corps, quoi. Parce que ça fait un petit moment qu'il est là, il n'y a rien qu'à bouger. Du coup, on a rappelé l'avocat et on lui a dit, la morgue, maintenant, même eux, ils sont en train de nous dire, qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi. Et du coup, nous, on se trouve dans une impasse. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes des citoyens français. Égalité... fraternité, liberté, pour moi, ça n'existe plus, quoi. Faut le dire. Parce que c'est injuste ce qui s'est passé, quoi.
C'est sûr, et puis il continue, quoi. Enfin, voilà, il pourrait juste, admettre un moment qu'ils ont fait des conneries et puis faire en sorte que ça s'arrange. Enfin, c'est hallucinant qu'il n'y ait toujours pas d'autopsie. Je me rappelle quand votre oncle il avait appelé, je l'avais eu au téléphone avant, il m'avait dit je veux faire un appel au président de la République et tout ça, donc on avait fait l'appel au président à cette antenne et tout ça, et puis on disait malheureusement on a peu d'espoir parce que ce que disait Alex, on connaît leurs pratiques, malheureusement on a l'habitude en animant ces émissions de voir des situations comme les vôtres et c'est insupportable, ce qu'ils font. Et maintenant, il va falloir que ça bouge. Il va falloir que les avocats ils se bougent aussi, pour que ça avance. Parce que là, pour l'instant, on est le 12 février. Ça va bientôt faire 4 mois, si je compte bien, que Taoufik il est décédé. Et on ne sait rien. On ne sait rien de ce qui s'est passé.
On ne sait pas. On est dans du noir, en fait.
Après, autant sur les morts en prison que les morts aux mains de la police, la stratégie du temps, c'est la stratégie qu'ils utilisent de leur côté en permanence pour faire traîner, parce que ils espèrent que ça va décourager les familles, que ça va les épuiser. Et en même temps, c'est aussi une façon d'effacer des traces sur les corps, d'effacer tout ce qu'il peut y avoir qui peut rapprocher un peu de la vérité. Et pour avoir la justice, il faut d'abord avoir la vérité. Et comme ils le savent très bien, et que c'est un jeu qui est de leur côté rodé depuis des décennies, ils vont continuer à essayer de faire traîner. C'est pour ça que vous, de votre côté, va falloir que vous restiez soudés, que vous restiez forte, et ne pas lâcher l'avocat pour qu'il continue à mettre la pression, vous continuez à faire les démarches. Parce que de toute façon, cette question du temps, c'est sûr que, eux, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont pas mal de clés, ils ont pas mal d'outils. Mais il faut pas lâcher ça, quoi.
Nous, on est forts, et je suis forte, mais on dirait qu'ils font exprès pour nous affaiblir, quoi. Ils nous affaiblissent, en fait.
C'est exactement
ça. Parce que... ça leur coûte quoi de nous donner le OK pour qu'il aille faire son autopsie, qu'on lui fasse son autopsie, quoi. Une fois l'autopsie, elle est faite, c'est bon. Lui, mon frère, on le rapatrie et l'enquête, on la fait après. Mais si on le rapatrie sans autopsie, dans tous les cas, ils vont gagner.
C'est ça.
De toute façon, qu'est-ce que je vais vous dire ? Ça va être difficile parce qu'en fait, c'est l'État, quoi. Mmh. C'est pas...
Ouais.
Je sais pas, je me dis, ça serait deux personnes, deux individus. Ne t'inquiète pas que l'affaire, elle serait classée. Mais là, avec l'État, c'est pas facile, quoi. Parce qu'ils sont tous soudés, ils sont tous... je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont tous de mèche, en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais... En plus, nous, on n'a pas l'habitude... Mon frère, il a fait des encarts. Il a fait de la prison. On a l'habitude de lui faire des mandats. Mais il fait des prisons, c'est pas... Il tape pas des années, hein. C'est des prisons de 2 mois, je vous dis, comme pour des permis, pour des conduites sans permis, pour des excès de vitesse ou un délit de fuite. Il a fait de la prison pour ces choses-là. Mais nous, on ne s'y connaît pas parce qu'en fait, quand il se faisait juger, il rentrait en prison, nous, on ne lui faisait que des mandats. On ne lui prenait ni d'avocat, ni rien. On ne s'y connaît pas, en fait. Du coup, là, on est perdu. On ne sait pas... J'ai l'impression qu'ils font tout pour nous... Pour nous décourager, comme il a dit votre collègue.
Il joue là-dessus, parce que là...
Il joue là-dessus, voilà.
Toutes les familles à qui ça arrive... Ils ne savent pas comment s'y prendre sur le coup, elles ne sont pas préparées. Et forcément, ils vont jouer là-dessus aussi. Et puis les histoires aussi de finances. Ils espèrent que ça va étouffer financièrement, que ça va fatiguer, que c'est normal.
C'est ça, ouais. Ouais. Parce que là, mes parents, ce qu'ils ont envie, c'est juste qu'on l'enterre, quoi. Ils ne se sentent pas bien tant qu'il est dans le frigo. Pour eux, ils ne sont pas bien, quoi.
C'est
parce que nous, les frères et sœurs, on est là, quoi. Pour leur dire non, il faut pas faire ça, on attend, il faut... Mais heureusement qu'on est là pour eux, quoi. Ouais, parce que personnellement, moi, mes parents, ils auraient arrêté l'affaire, quoi. Ça ils auraient dit on laisse ça et... C'est Dieu qui paye, comme on dit, quoi. Ils auraient dit ça, mes parents.
En tout cas, c'est important là de continuer d'être solidaire comme ça et enfin de rester en bloc. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que tout ce que ça montre, c'est que tout ça, quand on dit que c'est structurel, que c'est pas juste un maton, une matonne qui déconne, etc. C'est exactement ça, quoi. Il y a toute une administration, il y a des liens entre la justice, la police, l'administration pénitentiaire. C'est l'affaire Aceys il y a 2 ans avec Jawad. En fait, c'est toujours les mêmes pratiques. Et tous ces gens-là, on sait très bien qu'ils travaillent ensemble. Et du coup, je voulais aussi dire que généralement, les collectifs qui nous ont appris ces dernières années à réussir des fois à inverser les tendances, c'est en réussissant à s'emparer de la justice, mais en luttant à côté, quoi. Et que juste avec la justice, généralement, c'est eux qui gagnent. Parce que la justice, c'est ce qu'on disait, quoi. En fait, c'est eux qui la maîtrisent. Mais que des fois, avec un rapport de force dans la lutte, dans la rue, en plus, on arrive à obtenir... Je sais pas c'est quoi obtenir justice, mais en tout cas, on arrive à obtenir de montrer que c'est qui les responsables et d'obtenir des vérités, quoi. Une partie de la vérité. Et que du coup, il faut aussi lutter en dehors. Et c'est pour ça que déjà, prendre la parole là, publiquement, plusieurs fois, comme vous l'avez fait, c'est hyper important. Parce qu'il faut que cette affaire, elle vive en dehors de l'avocat, en dehors du temps judiciaire, pour continuer à leur mettre la pression, etc., quoi.
Surtout, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le jour qu'on est rentré à la morgue voir mon frère, franchement, il n'est pas mort d'un bout de viande étouffée, quoi. C'est pour ça ils nous ont caché le corps, en fait, parce que moi, je connais mon frère, il était tout beau, il avait un corps parfait. Mais ça se voit qu'il avait des séquelles, quoi. Il a un œil rentré, le nez, on va dire, plus tordu, quoi. Je ne sais pas comment on dit ça. Et il a une frappe au niveau de la tempe. Du coup, quand on est parti à la morgue et que la première personne qui est rentrée le voir, c'est mon père. On ne voulait pas trop parce qu'on avait peur que mon père... Du coup, il a été fort, il a dit « c'est moi qui rentre le voir ». Il est rentré. Dès qu'il est rentré, qu'il a vu, il a compris. Il m'a dit « ton frère, il est mort avec une frappe sur la tempe ». On a vu qu'il avait une trace ici, une grosse trace au niveau de la tempe. Et je pense qu'ils ont caché des choses, en fait. Ils l'ont bien maquillé. Mais malgré avec le maquillage, on a vu beaucoup de... Déjà, il a un œil vraiment, il n'a plus d'œil, quoi. Il lui reste qu'un œil.
D'accord.
Il y a un œil, il n'y est plus, quoi. Il y est, mais il est vraiment, comme on dit, il est dedans. Le nez, il est vraiment à gauche. Il n'est plus au milieu.
Il est cassé.
On a compris qu'il y a eu quelque chose, quoi. C'était pas un bout de viande qui l'a tué, quoi. Nous, ce bout de viande, on n'arrive pas à l'avaler, quoi. Et on ne l'avalera pas, de toute façon, même si l'autopsie, elle passe, on ne l'avalera pas comme quoi il est mort d'un bout de viande. Mmh. Ouais, c'est impossible.
Parce qu'il faut aussi faire attention avec, des fois, leur autopsie à eux, les médecins légistes qui choisissent. Et que souvent, il y a aussi l'étape de la contre-autopsie, de faire choisir un autre expert. Mais bon, c'est des temps qui viendront après. Déjà, il faut obtenir une autopsie. Mmh. Jusqu'à 4 mois après les faits, on le rappelle, je sais, c'est quand même genre, totalement hallucinant ce qu'ils sont en train de faire. On sait qu'ils font souvent, pas n'importe quoi, mais qu'ils font souvent durer, mais il y a quand même des trucs qui sont genre tout à fait ouf. Moi, je voulais juste rappeler que c'est l'administration pénitentiaire qui est responsable de la vie des gens, en fait, qui sont enfermés dans les prisons. Et que nous, on demande la fin de ces prisons et que les gens y soient libres, mais qu'en attendant, quand l'État choisit d'enfermer des gens massivement, en fait, il est responsable de ce qui s'y passe. Et du coup, c'est... Là, y a, que ce soit par un bout de viande, que ce soit par des violences ou quoi que ce soit, en fait, il y a une responsabilité de l'administration pénitentiaire, quoi. Donc sur à la fois sur faire durer l'enquête et sur la mort des gens à l'intérieur.
On est parti toute une famille à la morgue et tellement ils se sentaient fautifs. Dès qu'on est rentré à la morgue, normalement avec le Covid, vous savez, c'est pas facile. Du coup, ils nous ont dit on rentre deux par deux. C'était une petite pièce comme ça. Il était allongé et on avait le droit à deux personnes qui rentrent. Mon père est rentré avec une dame. Ensuite, moi et mon petit frère, on ne voulait pas rentrer parce qu'on voulait garder une belle image de lui. Mmh. On avait peur. Mais finalement, on est rentré parce qu'il était beau, malgré tout. Mmh. Il était magnifique. Il n'y a rien à dire, quoi. Sauf qu'on a vu ces séquelles-là qu'il avait. Et tellement ils étaient fautifs, on rentrait par 10 à la fin, dans la pièce.
Ouais, ils nous ont rien dit.
Ils nous ont permis beaucoup, beaucoup de choses alors que c'était interdit. Mais tellement ils étaient fautifs, ça se voit, le procureur ou je ne sais quoi, celui qui est haut, il leur a dit « laissez-les faire comme ils veulent ». Mmh. Et ce n'était pas deux personnes, on était tous dans la pièce. Quoi. Mmh. Il était là sur le lit et on était tous entourés de lui. Alors qu'au début, la dame elle nous a dit non deux par deux. Et ensuite, quand elle nous a vu, elle ne nous a rien dit. Elle nous a dit « faites ce que vous voulez ».
Bon, moi, je voulais ajouter que tout à l'heure, tu disais à juste titre qu'ils sont très soudés, qu'ils sont nombreux, que c'est une structure. Mais après, face à cette grosse machine, ce qui donne de la force et ce qui peut permettre de jouer dans le rapport de force, c'est aussi de s'entourer et du coup, vous aussi, de pouvoir lutter et vous bagarrer collectivement. C'est-à-dire, vous avez une grande famille, donc déjà, ça, c'est important pour rester soudés. Mais aussi de voir avec qui d'autre vous pouvez essayer de lutter. Et notamment, là, on a évoqué d'autres cas, malheureusement. Il y a le cas d'Idir, il y a le cas de Jim Money il y a quelques jours, où à chaque fois, on retrouve des choses qui sont quand même assez proches. Mais c'est par le rapport de force et par le collectif que finalement, les bagarres elles peuvent aboutir à certaines choses. On le voit notamment sur les cas des violences policières. Quand ça débouche et que derrière, les familles, elles ont réussi à fédérer, à ramener beaucoup de monde auprès d'eux, de faire bouger les gens. Il y a des marches, il y a des manifs, il y a des pétitions, il y a des communiqués. Il y a plein de choses qui se mettent en place qui permettent de faire voir l'affaire et de donner beaucoup plus de force. Quoi. Je ne sais pas où vous en êtes à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est important de penser collectif aussi, pour ne pas rester isolé et pour prendre encore plus de poids dans ces affaires-là. Ouais.
Nous, on est tous soudés, la famille. Je tiens à dire une dernière chose, c'est que mon frère, il ne mérite pas d'être tué, parce qu'il n'est jamais rentré en prison, parce que c'était pour une bagarre, parce qu'il avait menacé quelqu'un, ou parce qu'il avait frappé quelqu'un, ou tué quelqu'un.
De toute façon, personne ne mérite de mourir à l'intérieur des murs d'une prison, quoi que il ait pu faire à un moment ou un autre. Comme le disait Alex, c'est la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, moi je pense que c'est ce que disait Greg, c'est important, que voilà, il va falloir développer des liens. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. On va peut-être parler de la marche et tout ça. Vous avez fait le taf aussi avec les médias d'essayer de les contacter. Et depuis, en fait, vous n'avez pas eu de nouveau contact non plus avec les médias, quoi. Il y a eu 2-3 articles au moment qui ont été... C'était assez bizarre, ces articles, moi, je trouvais, parce qu'en fait, les gens étaient plutôt choqués qu'ils vous aient pas prévenu, que l'administration pénitentiaire ne vous ait pas prévenu qu'il y ait quelqu'un qui soit décédé à l'intérieur. Voilà, mais donc, en tout cas, c'est aussi un endroit où il faut faire entendre et parler. Voilà, et enfin, nous, c'est le rôle ici de l'envoler. Et ça serait bien que les autres médias aussi continuent à suivre ce genre d'histoire, quoi. Parce que venir une fois chez vous, vous interviewer et tout ça, et puis après, derrière, ne pas continuer, je trouve que c'est assez. C'est assez dégueulasse, quoi, enfin, comme manière de faire, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter un truc ? Parce que sinon, on va raconter...
Non.
Non.
C'est bon.
Ouais.
Je pense que j'ai tout dit. Et non, c'est bon.
Je vais vous raconter un peu la marche qu'il y a eu dimanche. C'était une marche blanche qui était organisée pour Dimoni. Voilà, qui est un événement qu'on pourrait qualifier d'historique, dans le sens où il y a entre 300, 400 personnes, peut-être même 500, qui se sont retrouvées sur le terrain de la pénitentiaire, parce qu'il y a eu une marche qui est arrivée jusque devant la porte d'entrée de la prison. C'était une marche qui était hyper émouvante. Voilà, et qui en même temps donnait beaucoup d'énergie parce qu'il y avait du monde. Et c'est important qu'il y ait du monde pour ce genre de choses. Là, pour avoir discuté un peu avec les proches après, derrière, ça fait du bien. Voilà, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Voilà, il faut que ça continue. On a l'impression qu'il y a une certaine forme de prise de conscience qui s'est passée depuis quelques semaines. À travers l'affaire de Dimoni. Il y en a plein d'autres, des histoires de gens qui sont décédés en prison de manière très suspecte. Voilà, le moment est peut-être à ce qu'il y ait des familles qui se réunissent maintenant. On a vu les familles qui ont subi des meurtres policiers, qui étaient présents et qui ont eu des très belles, très beaux... Enfin voilà, il y a eu des discours. Voilà, il y a eu pas mal de discours de plein de gens... des gens de familles de violences policières, des proches, des copains des deux quartiers dans lesquels ils vivaient, d'anciens prisonniers, voilà. Et y avait un peu ce que tu racontais là, en disant on se bat contre l'État. L'État, c'est un truc qui est souvent plus fort. Et en même temps, il y avait l'énergie de voir certaines familles de violences, de meurtres policiers. Je pense à Fatou Dieng qui était présente, voilà, où après 13 ans de combat, si je ne me trompe pas, ouais, ils ont réussi à gagner, et que devant la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est 13 ans de lutte acharnée. Et ça n'a pu marcher que parce qu'il y avait le collectif. Et là, de voir tout ça, en fait, maintenant... Il faut que ça se développe ailleurs. Là, c'était un mot, c'est loin un mot. Il y avait énormément de personnes. Voilà, il faut que ça continue, il faut que ça prenne de l'ampleur. Il faut soutenir toutes les familles, il faut vous soutenir vous. Il faut soutenir toutes les familles qui sont en lutte. La famille Didier, la famille d'Ossine Bourras, où ils vont sûrement pouvoir essayer d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme dans pas trop longtemps. Mais il y en a plein de familles. Il y a aussi des familles qui se sont épuisées. On ne peut pas leur jeter la pierre parce que c'est normal, parce que l'État, il est fort. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on soit nombreux et nombreuses. Et s'il y a des gens à l'extérieur qui écoutent, prenez contact avec les familles. Allez voir sur les sites, tout ça. Contactez-nous. Pour qu'on mette en lien, voilà, nous malheureusement on peut pas tout faire, on essaye de faire un maximum, mais on peut pas quotidiennement suivre les affaires, et enfin voilà, on a un suivi quotidien, mais il y a besoin de plus, et voilà, et franchement cette marche on a eu froid, il faut le dire, mais il y avait une énergie et une chaleur qui était présente, qui était dingue. Et j'espère que ce ne sera pas juste un coup d'épée dans l'eau, où il y a eu un événement comme ça, parce que tout le monde était marqué, ça a fait un petit buzz, mais voilà, là, c'était autre chose qui se passait. Et voilà, c'était chouette de voir deux quartiers réunis, qui en plus s'étaient dit pendant la marche, il y avait parfois souvent des bisbilles, et là, ils étaient réunis autour de ça. C'était un moment vachement fort, un moment qui a refilé de l'énergie aux proches, Et c'est un moment qui doit se reproduire pour la famille de Jimoni, mais aussi pour toutes les autres personnes. C'est hyper important. Et voilà, c'était un chouette moment. On va faire un petit reportage sonore dans pas trop longtemps qu'on vous passera avec toutes les diffusions et toutes les interventions qu'il y a eu, qui racontaient comment la pénitentiaire, elle passe sous silence tout ça. Et c'est des combats qu'il va falloir mener. C'est important qu'il y ait maintenant de plus en plus de personnes à l'extérieur qui soutiennent tout ça. Espérons que ça soit un point de départ pour une prise de conscience un peu plus globale sur ces meurtres. Voilà, il y a eu cette prise de conscience sur les meurtres policiers, même si c'est toujours pas suffisant et que voilà. Et il faudrait que ça arrive maintenant et soutenir la famille de Taoufi qui a fait l'effort de venir parler. Je sais que c'est super dur. Comme l'a fait Koura la semaine dernière à cette antenne, c'est important. Et il faut les soutenir parce que c'est une vraie bataille qui est menée par tous ses proches. Et voilà, donc c'est l'occasion de passer un gros bonjour, enfin, plein de force en tout cas, à toutes les familles de meurtres à l'intérieur des murs des prisons, que ce soit Mehdi, Idir, Taoufik, Eric, Jawad, Jules et Jimoni et tous les autres. Est-ce que ça te va si on met le son que tu voulais dédicacer à,
oui.
à Taoufik ?
Oui.
On se retrouve après la ZIC. Force à tout le monde.
T'es parti, mais on t'oublie pas. Un tragique accident sur Ripa. L'alcool censé nous divertir a fini par nous détruire. Il te restait tant de chemin à parcourir. Je te revois au te fond en train de nous faire courir. Je regarde une tofu, t'es en train de sourire. Y'a pas d'âge pour mourir. T'es parti, mais on t'oublie pas. Tes frérots, tes sœurs, tes remplois. Ils ont été très forts, mon même dit ne pleure pas. Quand je pense à ton frère au carpla, qu'apprend ta mort dans ce triste décor, qui demande une perle pour la lever du corps. Et puis qui retourne en son prix tout seul, revoyant sa chair dans un linceul. On espère tous se revoir dans l'au-delà, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie pour qu'il nous accorde sa clémence. C'est quand on meurt que la vie ça commence. Quand je repense à notre enfance, les tournois de foot, les souvenirs de vacances, ton absence me ronge comme une tumeur. Le passé meurt, les souvenirs demeurent. T'es parti, on t'oublie pas. T'es parti, on t'oublie pas. T'es parti. T'es parti, mais on t'oublie pas. Tes frérots, tes sœurs, tes remplois. Et t'es tous là pour la genèse. On est parti jusqu'à Sirekunda. Avec Frédéric, Chéri, Fastin. Je me suis revu à l'enterrement de Patrodine. J'ai repensé à la mort du petit Mehdi. Dans le quartier, trop de tragédie. C'est à croire que la malchance nous colle à vie. Et que le mot poisse rime avec Belleville. J'ai pas oublié ce qu'on s'était dit. À la vie, à la mort, casse dédi. T'es parti, comment t'oublier? Un vrai ragil, pas une poule mouillée. Toujours chaud quand fallait s'embrouiller. Mais devant la famille, toujours douillée. Je me revois toi, moi, Khaled et Bersa. T'avais le talent d'un joueur du Barça. Mais c'est au port qu'on donne la confiture. 3, la vie dure. T'es parti,
tu
mais on
parti,
t'oublie pas.
Mais
t'es parti,
on
mais
ne t'oublie
pas.
Pas. Non,
t'es parti,
non,
mais on ne t'oublie pas. T'es parti, mais on ne t'oublie pas. T'es parti,
tu
mais on ne t'oublie
parti,
pas.
Mais
t'es parti, mais on ne t'oublie pas.
Pas.
فعليكم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع فلان في الشارع يشرب الخمر ولا تتبع فلان في الشارع يستعمل الميسرة ولا تتبع فلان مغني ولا تتبع فلان مكور وعليك بالرسول وما خير من الرسول صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى الله يا بني آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
N'écoute pas les gens qui te font rire. N'écoute plus que ceux qui te font pleurer. N'écoute pas les gens qui te font rire. N'écoute plus que ceux qui te font pleurer. T'es parti, n'en partis pas.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Ou nous appeler
au 07 52 40 22 48. Et du coup là, on...
Salut Faïza, à très bientôt. Voilà, on se dit au revoir et tout ça, et puis voilà, on va reprendre tranquillement le fil de l'émission. Voilà. C'est donc voilà. Donc ouais, donc c'est toujours FPP 106.3. Voilà, et donc on va parler des arrestations qui se sont passées le 8 décembre. On fait le petit changement de plateau. Voilà, c'est du direct. Voilà. Donc ouais, une histoire dont on avait un peu parlé ici.
Ouais, du coup, bon, bah, en décembre, on s'était fait l'écho. Il y a eu, on était dans une période depuis quelques mois avec les manifestations contre la loi, enfin contre les lois sécurité globale, contre avant le Covid, contre les retraites, etc. Où l'État, il était en train d'instrumentaliser le délire d'un fantasme de l'ultra gauche ou je sais pas quelle catégorie ils étaient en train de foutre. Et ils essayaient de faire leur jonction entre terrorisme, ultra-gauche, comme ils l'ont déjà fait en fait à plusieurs moments, quoi. Et donc, début décembre, après quelques mois d'enquête, ou enfin en tout cas de surveillance, quoi, plutôt, ils décident de poser cette étiquette sur 8 personnes, d'arrêter ces gens-là un peu partout en France, sur 9, et de les mettre en détention provisoire. Et du coup, là, on voulait revenir avec le frère d'une des personnes qui est incarcérée en ce moment pour ça, donc toujours en détention provisoire, toujours avec une enquête qui est active, quoi, enfin, en ce moment. Et on voulait revenir un peu sur ce qui s'est passé déjà le 8 décembre et depuis, parce qu'il commence à y avoir des réseaux de solidarité qui se montent. Et voilà.
Salut.
Ouais, on t'entend bien. Ouais.
Déjà, je voudrais tout mon soutien à Faïza par rapport à ce qui arrive à Taoufik. En vrai, de tout cœur, c'est vraiment dégueulasse ce que fait l'État. Et on n'oubliera pas, on ne pardonnera pas. Je souhaite beaucoup de courage à toute sa famille et à toutes les autres familles qui sont dans ce genre de situation. Pour revenir sur l'affaire, je peux vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre 2020. Donc à 6h du matin, il y a eu un coup de filet dans l'ultra-gauche, comme titraient les médias. Donc en fait, il y a 9 personnes qui se sont faites réveiller violemment par des types cinglés avec des armes, etc. Donc ils ont défoncé les portes qui étaient ouvertes, enfin voilà, tout le délire de la police antiterroriste. Donc il y a eu des perquisitions, ils ont perquisitionné et ils ont arrêté 9 personnes. Il y a eu des personnes arrêtées en Dordogne, à Toulouse, à Rennes, à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et voilà, ils ont emmené ces personnes-là 3-4 jours au siège de la DGSI, qui est à Levallois-Perret. Ils les ont emmenés dans des conditions donc d'interrogatoire qui sont vraiment faites pour torturer psychologiquement en fait les personnes. Donc c'est des espaces où déjà faut savoir qu'ils vous, quand c'est comme ça, ils vous emmènent avec une cagoule sur la tête, ils vous embarquent dans un fourgon et vous avez aucune information de qu'est-ce qui va se passer. Voilà, vous arrivez dans des locaux où il n'y a pas de fenêtres, il y a des néons en permanence, vous savez jamais quelle heure il est. On vous file éventuellement des somnifères et du tramadol pour pas trop paniquer, pour réussir à dormir, etc. Donc vous êtes dans des états psychologiques vraiment genre atroces, et les interrogatoires sont tournés, on chasse pour vous faire craquer, les interrogatoires sont des trucs vraiment de merde, qu'est-ce que vous pensez de l'état, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement, etc., etc. Et ils essayent de remonter les uns contre les autres, de mentir, de mettre la pression, de faire peur, enfin toutes les techniques pour faire parler.
Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit, mais c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années ici, c'est qu'en fait quand l'État crée une catégorie de monstres, en fait un peu comme ça, quoi. Là ils ont créé le truc du terroriste. En fait après ça permet d'appliquer une vengeance qui est genre sans limite, quoi. Ça fait assez longtemps, ça fait 20 ans qu'ils ont cette rengaine là, mais depuis 2015 en fait, maintenant quand quelqu'un est désigné comme terroriste ou comme soutenant les terroristes, en fait il y a pas de limite dans la vengeance de l'État. Et donc à la base c'est une étiquette qui est posée sur des gens qui viennent crari pour tuer plein de civils, etc. En fait on crée une catégorie de monstres qui fait que les gens ils vont l'accepter. Peu à peu on élargit en fait cette catégorie. Donc là c'est aux militants, militantes qui vont désigner comme d'ultra gauche et terroristes parce qu'ils en ont ce besoin politique à ce moment-là, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça donne des trucs. À partir du moment où on colle cette étiquette, de toute façon, ça devient compliqué. Parce que tu vas faire ces 72 heures de garde à vue, qu'il y a toujours moyen de dire un truc qui se retourne contre toi après, que quand on perquise, en fait, il y a toujours moyen de coller trois bouts de trucs pour en sortir toute une histoire. Et là, c'est ce qui va se passer. Enfin, là, je te laisse continuer. Mais...
Oui, du coup. En fait, ce que ça permet, l'antiterrorisme, c'est de déshumaniser les personnes. Mais avec le témoignage qu'on vient d'avoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de l'antiterrorisme pour déshumaniser les gens. Notamment, le racisme d'État, c'est une manière de déshumaniser des personnes et de négliger tous leurs droits et tout leur humanisme, leur humanité, pardon. Donc, en fait, à la suite de ces 3-4 jours de garde à vue... Sur les 9 qui ont été arrêtés, il y en a 2 qui ont été relâchés sans suite, dont une personne qui ne sait pas encore si c'est vraiment sans suite ou pas, mais en tout cas elle est libre. 2 qui ont été placés sous contrôle judiciaire, et 5 du coup qui ont été mis en détention provisoire et qui ont été répartis dans des prisons tout autour de la région parisienne. Donc il y a une personne à Oni, une personne dans la maison d'arrêt pour femmes de Fleury, une personne dans la maison d'arrêt pour hommes de Fleury, une personne à Fresnes et une personne au bois d'Arcy.
Ouais, ça c'est soi-disant pour les besoins de l'enquête en fait, parce que juste quand t'as fait la liste de toutes les arrestations tout à l'heure, les 3/4 des gens ils avaient pas l'air d'être du tout de région parisienne, quoi, où ils vivent. Du coup en fait là quand ils mettent toutes ces personnes en prison en Île-de-France, c'est soi-disant pour les besoins de l'enquête, mais en fait on en a aussi souvent parlé ici, faire ça éloigner les gens de leur MIFA, les placer en détention provisoire, parce que du coup c'est un moment où là l'enquête elle se poursuit au-delà des 4 jours en fait de garde à vue, donc la pression elle reste constante là pour les gens, quoi. En fait c'est une manière d'essayer de briser le moral dans la suite de ces 4 jours de garde à vue où t'es du père ou t'es cagoule, enfin tu sais pas où t'es exactement, quoi. Et du coup c'est vraiment des logiques d'État où ils ont l'habitude de déplacer les gens aussi pour les faire craquer, quoi.
Ils les isolent complètement, et en fait isoler un être humain de ses amis, enfin de toutes ses relations,
En fait, c'est aussi une torture blanche et c'est vraiment une manière de nous... Comme elle disait Faïza tout à l'heure, en fait, ils veulent nous ôter notre force, nous démoraliser, etc., nous détruire, quoi.
Ouais, c'est un chantage, c'est des coups de pression pour que t'avoues des trucs qu'eux, ils ont envie que t'avoues, quoi. Et du coup, c'est des moyens, enfin... Sivé, elle en est intervenue pendant assez longtemps sur comment ils avaient empêché la communication pendant plusieurs années avec un de ses proches, quoi. Et du coup, c'est un vrai moyen de pression pour que tu te retrouves à avouer ou à accepter de collaborer avec eux. Parce qu'en fait, t'as besoin de... Enfin, c'est les mêmes conneries quand en garde à vue, on te dit, si tu parles, ta garde à vue, elle sera pas prolongée. À la fin, tu te fais quand même avoir et du coup, ta garde à vue, elle est prolongée. Mais l'idée que peut-être que parler ou donner tes empreintes, ça va permettre de faciliter le truc, ça fait craquer plein de gens, quoi. Et là, c'est exactement la même chose où, genre, tous les leviers, ils sont utilisés pour que tu dises, vas-y, peut-être si je craque un peu sur ça, au moins, on va me rapprocher de ma mifa, même si je suis pas libéré. Enfin, voilà, c'est des moyens et des coups de pression assez vénères, quoi.
Ouais. Du coup, peut-être je peux continuer sur les conditions de détention là. Bah, en tout cas, au niveau de l'isolement, ça a été très long pour obtenir les premiers parloirs. Enfin, ça a pris un mois, pareil pour les courriers. Et vraiment l'isolement, il a été utilisé comme une manière de détruire en fait ces personnes-là. Et
comme un moyen aussi d'occuper l'espace médiatique, parce qu'en fait pendant ce temps-là au début, de leur part, hein, je veux dire, eux en fait ils en ont profité pour balancer, c'est ce que tu racontais là, le titre de l'article du Point ou je sais pas quoi, mais
oui.
En fait eux ils en ont profité pour raconter n'importe quoi dans plein de médias, qu'il n'y ait que la version des keufs de l'antiterro qui parle, et de toute façon un article il est biaisé quoi, à partir du moment où il y a écrit keuf de l'antiterro qui dit ceci, en fait tu perçois la personne comme une terroriste et du coup t'as l'impression que la vengeance d'État elle peut être sans limite quoi.
Légitime, ouais.
Et eux ils en ont profité à balle en fait de ce moment là où les gens ils sont pas en contact avec dehors, donc pour organiser une réponse même à minima médiatique en disant en fait juste déconstruire le truc en disant ça n'a rien à voir avec ça, c'est du bullshit, ils sont en train d'instrumentaliser un truc, et eux ils profitent de ça pour dire dehors en fait il y a un lien entre l'ultra-gauche, entre le terrorisme, il faut renforcer les lois de surveillance, ça justifie la loi de sécurité globale, ça justifie la loi sur le séparatisme, en fait c'est dans tout ce contexte là quoi.
Mais de toute façon il n'y a pas de droit de réponse, il n'y a pas de vrai contre-pouvoir, donc de toute manière c'est un pouvoir hégémonique de l'État là-dessus et ils s'en servent extrêmement bien.
Les personnes qui sont inculpées là, si vous avez pu tous être un peu au courant ou lire les articles qui sont sortis dans les médias, il y en a eu un assez dégueulasse qui montre bien un peu tout le scénario psychotique de la DGSI qui a été sorti par Le Point. Je sais plus exactement le titre, mais c'était l'ultra-gauche, nouvelle menace, je sais pas quoi. Et en fait, leur délire, donc c'est ça, c'est y a une personne qui est allée au Rojava pour soi-disant s'en guérir. Déjà tout l'aspect en fait du système communaliste, de la révolution féministe, de la révolution écologiste et de la lutte contre Daesh qui est menée par les Kurdes et en fait pas que par les Kurdes en fait, parce qu'ils pensent pas en termes ethniques, mais en tout cas par les composantes de ce mouvement révolutionnaire là. Tout ça s'est passé à la trappe juste pour dire il y a des gens qui kiffent la violence, dont là il y a un gars qui kifferait la violence et qui serait allé apprendre à manier les armes là-bas quoi. Et en fait donc leur délire c'est ça, c'est donc il y a quelqu'un comme l'ont très bien dit en fait les anciennes combattantes et combattants francophones du Rojava dans leur tribune qui est parue sur lundi matin et dans CQFD qui a été refusée à la publication dans Mediapart, dans Libération et dans Le Monde, faut quand même le préciser. Donc cette tribune elle réexplique très bien, elle remet les points sur les i en fait. En fait, les gens ils sont pas allés s'en guérir parce qu'ils kiffent la guerre. Ils sont allés soutenir une étincelle d'espoir, comme le disait un camarade au micro de Radio Piquez le 6 février. C'est des étincelles d'espoir dans un monde aujourd'hui. On se trouve dans un tunnel, dans un tunnel noir de montée de tout type de nationalisme rétrograde. Et dans ce tunnel, ce sont des étincelles d'espoir qu'ils mettent en pratique. Donc en fait, il y a des gens qui vont soutenir ces pratiques et ces étincelles d'espoir. Donc dans le délire de la police française et de l'État raciste, ça fait juste des gens dangereux, en fait. Et donc voilà, une personne qui revient du Rojava Et du coup, là, c'est là où il commence à monter tout un scénario. Vraiment psychotique de il revient au Rojava, il va essayer de monter une cellule pour former des gens à la guérilla et mener une lutte armée en France, quoi. C'est vraiment le délire de la DGSI qui transparaît dans cet article du Point. Et voilà, c'est vraiment dégueulasse. Je vous conseille de demander à vos avocats, je parle à tous les inculpés, là, demandez à vos avocats, ils peuvent très bien vous donner des articles de presse et n'hésitez pas à leur demander, quoi. C'est assez intéressant de voir ça.
Ouais, en fait,
je pense que c'est soit une vraie manipulation, entre guillemets, de l'opinion et de l'information, soit c'est une vraie méconnaissance de ce qui peut entraîner des gens à aller là-bas pour expérimenter des nouvelles façons de vivre, des nouveaux modes d'organisation politique en termes de démocratie directe, en termes de justice sociale, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'ils font, c'est hyper crade. Et en plus, ça vient justifier l'arrestation et le maintien en détention, quoi.
Ouais, le truc, c'est qu'en fait, le vocabulaire qu'ils utilisent, c'est la même chose qu'ils utilisent pour les personnes qui qualifient d'islamiste radical, quoi. En fait, c'est l'étiquette de terroriste, c'est tu vas à l'étranger, tu vas te former, tu vas dans un camp et militaire, et après tu reviens pour créer une cellule dormante ou une cellule machin. Ouais. Et en fait, tout ce vocabulaire-là, ça fait déjà des années qu'ils nous le rabâchent en nous disant « Mais ouais, on a chopé X cellules terroristes dormantes cette année, blablabla, blablabla. » Et donc, en fait, ils calquent ça après avoir habitué les gens. C'est exactement ce qu'on a dit sur tout un tas d'élargissements de la répression, des périmètres de répression ces dernières années. C'est tu crées une catégorie de monstres, et après, une fois que c'est passé dans l'opinion, bah, tu l'élargis peu à peu, quoi. Et donc là, c'est sur eux, puis après, ce sera sur d'autres gens. Et faut peut-être le préciser, c'est que pour le moment, les motifs d'arrestation qui sont parus dans la presse, c'est les questions encore de bande organisée en vue d'eux, avec tout le délire d'intention. Et en fait, le délire d'intention, on en a pas mal parlé ici, mais en fait, c'est un moment où c'est l'État qui va décréter que toi, t'es dans l'intentionnalité. Et c'est quand même assez compliqué de prouver ce qu'on a dans la tête, quoi. Et encore plus quand l'État a décidé que t'étais un terroriste, et donc il t'a mis une catégorie qui fait que tout ce que tu fais peut être retenu contre toi, quoi. Il y avait une lettre qu'on a lue il y a 2 mois ici, d'une des personnes qui a été qualifiée de terroriste par l'administration pénitentiaire et qui en fait expliquait que quand là il essaye de trouver des solutions, d'avoir un comportement crari exemplaire, etc., on lui dit « Ah mais non, en fait, c'est hyper chelou, tu dois être en train d'essayer de monter un truc dormant, machin truc, de nous endormir, toi t'es un radicalisé, donc tu devrais mal te comporter, quoi. » S'il commence à se vénère parce qu'il est à l'isolement, qu'on lui met la misère tout le temps, on va lui dire « Ah bah tu vois, en fait, on est d'accord que t'es un terroriste, quoi. » Ouais. Donc en fait, le gars, quoi qu'il fasse, il est désigné comme terroriste et il peut pas sortir de cette étiquette, quoi. Et en fait, c'est vraiment une étiquette qui est genre... Enfin, qui est genre hyper compliqué pour s'en sortir parce que c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu penses peut se. Enfin, voilà, enfin, tu vois, c'est tout ce délire-là qu'ils disent sur les trucs anti-État, anti-machin, comme si les gens, enfin, être anti-État, c'était le truc de l'insurrection qui permet une intentionnalité d'eux. En fait, cette catégorie qu'ils créent, là, dans les médias, en parlant d'islamo-gauchiste, d'insurrectionnaliste, de machin, enfin, tout ce qu'ils ont créé, quoi, ces dernières années, là, dans les médias, avec une propagande de ouf. Après, c'est hyper compliqué pour les gens qui sont désignés d'aller expliquer des subtilités comme ça à un juge ou à un gars de la DGSI, quoi. Enfin, je veux dire...
Et puis, peut-être ça renvoie... Faire le parallèle à ce que tu disais là, en termes d'islamo-gauchiste, on en parlait tout à l'heure aux antennes, mais c'était cette idée de partir sur cette désignation de terreaux qui sont forcément des barbus et des islamistes radicalisés, pour ensuite le faire glisser sur tout ce qui pourrait porter atteinte, soi-disant, en tout cas à leurs yeux, à l'État comme eux le conçoivent. Et du coup, le rapprochement, il se retrouve directement dans la sémantique et islamo-gauchiste, ben, on y est exactement là-dedans, quoi. Ils ont fait ce parallèle, il y a des islamistes, il y a des gauchistes, ils ont tout rassemblé, ils en ont fait un mot fourre-tout. Mais en attendant, ça visibilise bien, ça explique bien finalement une stratégie d'État qui est quand même bien rodée depuis toutes ces années, quoi. La une du Point, elle était complètement hallucinante quand c'est sorti, c'était exactement ça, quoi.
Est-ce que je crois que tu voulais lire quelque chose qui vient de...
Ouais, il y a une des proches là d'un inculpé qui m'a passé une petite page là pour vous lire. Justement parce que là, les 5 détenus, ils sont placés en régime spécial. C'est DPS, détenus particulièrement signalés ou surveillés. Et dont d'ailleurs une des personnes, là, cette personne qui est désignée comme le chef de cette pseudo-cellule, elle est en isolement total, c'est-à-dire qu'elle n'a pu voir personne depuis qu'elle est en prison, quoi, à part les avocats et le juge d'instruction et le personnel et la police, quoi. Et les parloirs aussi. Mais ça, je vais vous faire un topo juste après, je vais essayer de faire un petit topo sur la situation de chaque personne. Mais en tout cas, du coup, qu'est-ce que le statut de DPS implique ? L'incarcération commence par 4 semaines de privation de contact, un isolement total avec l'extérieur. Le courrier est bloqué, aucun parloir autorisé, pas de téléphone, aucun contact, mis à part avec l'avocat. À l'intérieur de la prison, DPS implique aucun accès à la formation, au travail, ni à n'importe quelle activité collective. Seule la promenade permet de sortir d'un ennui profond. Rajoutez à ça l'obligation permanente d'être accompagné par 2 surveillants dus au statut de DPS, avec tout ce que cela implique, difficultés au niveau de l'organisation, attente, etc. Et bien sûr, raccourcissement du temps de parloir. Il faut plus de personnel, donc ça se paye. Sans oublier les conditions de tous les détenus avec la Covid, c'est-à-dire la suppression de toutes les activités, quelles qu'elles soient, comme la bibliothèque et le sport. À part la promenade, il leur reste juste le froid et la solitude de leurs cellules et le bruit incessant et les cris. Et nous, dehors, on insiste impuissants à cette incarcération inacceptable sous prétexte de présomption d'intention, le tout au conditionnel. Merci à l'Envolée et à tous pour votre soutien. Et je sais pas si j'en profite là pour vous donner un peu des nouvelles de chaque personne.
Vas-y, ouais.
Juste avant ça, je voulais vous dire, en vrai, il y a des comités qui sont en train de se former à Amiens, il y en a un, à Toulouse, il y en a un, à Rennes, il y en a un, à Paris, il y en a un qui est en train de se former. Et vous inquiétez pas, dehors, on fait le taf pour pas vous oublier, pour que les gens apprennent ce qui se passe et pour le soutien. Donc voilà, on vous oublie pas. Donc pour le copain qui est à Fresnes, je vais commencer par lui. Faut que je rappelle que le chef d'inculpation, c'est pas bande organisée, c'est association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes criminels, je crois. Faut savoir qu'il y a déjà des gens qui ont été jugés seuls pour association de malfaiteurs. Donc, voilà. C'est vraiment, en fait, là, il y a association de malfaiteurs et le terme terroriste, c'est 2 termes qui juridiquement englobent des quantités astronomiques de situations. Donc, c'est vraiment genre des fourre-tout qui permettent de juger tout le monde et de mettre tout le monde en prison pour des suspicions. Bref. La personne qui a Fresnes. Et cette semaine là, il y avait de nouveaux interrogatoires devant le juge d'instruction. Je vais faire je vais parler un tout petit peu de ça aussi. Et du coup, la personne de Fresnes, elle est plutôt contente de son interrogatoire. Le juge lui a quand même dit qu'il devrait en repasser un en avril et peut-être un encore plus tard. Donc, il a pas l'air d'être dans une optique très de vouloir le laisser partir tout de suite, mais on va voir ça. Apparemment, sa cellule, au début, était pas terrible. Il avait froid, il y avait des trous autour de la fenêtre qu'il essayait de combler avec ce qu'il pouvait, des fringues et tout. Il voit régulièrement sa mère en parloir, je crois. Mais les autres proches n'ont pas pu avoir de permis de visite, notamment son amoureuse, à qui il peut juste passer des appels, mais elle a pas le droit de lui rendre visite. Voilà. Mais en tout cas, ça lui fait du bien de pouvoir passer des appels. La personne qui est à la maison d'arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis, pour les visites, il n'y avait que sa mère au début. Et puis, depuis la semaine dernière, il y a sa copine qui a pu lui rendre visite. Son interrogatoire, il a été court, il était mal préparé par les avocats. Là, il y a d'autres demandes de parloir qui vont être demandées. Il y en a déjà des demandes de parloir d'amis qui ont quand même été refusées, mais bon, ça continue. Pour l'autre personne qui a la maison d'arrêt pour femmes de Fleury, elle a reçu pas mal de visites de la famille. Généralement, c'est 2 parloirs famille par semaine. Et pareil, elle a eu globalement un parloir avocat par semaine. Elle a aussi le droit de passer pas mal de coups de fil. Elle a pu voir aussi en parloir deux fois une amie à elle, un parloir d'amis, un des seuls parloirs d'amis qui a priori a été accepté. Elle tient le coup, y a des hauts et des bas, mais elle tient le coup et elle ne laissera pas la prison et la justice l'abîmer et lui laisser des séquelles. Elle reste combative et je pense que si elle était au micro là, elle voudrait peut-être vous dire ça aussi, de ne pas les laisser nous abîmer, quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit à moi et je pense que c'est ce qu'elle aura envie de dire à tout le monde, de ne pas se laisser abîmer et de rester combatif. La personne qui est au bois d'Arcy, il tient le coup aussi et il reste dans sa ligne. Il est en isolement total par contre, pas de contact avec les autres détenus. Il passe régulièrement des coups de fil à son frère, qui va le voir tous les samedis, et à sa mère aussi. Je voulais lui dire que j'ai vu sa vieille louve il y a un mois, et elle se porte très bien, elle est entre de bonnes mains, elle est toujours aussi adorable et toujours aussi sourde aussi. Vraiment, elle va très bien. Et il y a la personne qui a Oni. Pareil, sa voiture et son chien sont entre de très bonnes mains. Il y a eu un petit souci de batterie sur sa voiture qui est réglé a priori. Mais j'ai pas beaucoup d'autres nouvelles. Mais j'imagine qu'il a aussi des parloirs autorisés pour la famille, notamment sa maman. Je vous passe un petit message tout de suite. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous envoie du courrier, du soutien, des dessins, des textes, des photos, quoi que ce soit, de la musique. N'hésitez vraiment pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à écrire, à nous écrire aussi. Et à parler de tout ce que vous avez envie de parler, en fait. Et nous, on sera là. De toute façon, on est dehors. Dehors, tout le monde est uni. Tout le monde essaye de faire de son mieux pour vous. Personne ne vous oublie. Et surtout, on ne s'habitue pas, quoi. Les jours, ils passent et tout, mais on garde... On a peut-être avalé notre rage, en tout cas pour moi. Mais je ne l'ai pas encore digéré et on ne risque pas de la digérer tout de suite. Donc voilà, on est là pour vous, quoi.
Beaucoup de force à vous, en tout cas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de force.
Ouais.
Et je pense que oui, ça restera... des choses qui restera encore à étudier, à analyser sur comment l'État aussi recompose un certain nombre de trucs, reproduit aussi des choses qui se sont passées dans le passé. On ne va pas avoir le temps de vous lire là tout à l'heure un texte qu'on avait prévu de lire qui s'appelle « Briser les prismes de l'État » qui a été publié dans l'avant... Si on le fait ? C'est un texte qui était sorti dans l'envolée 18, si mes souvenirs sont bons, ou 16, et qui revenait un peu sur comment l'État y catégorise et comment aussi il sert à gérer ce système capitaliste bien pérave. Et on fout un coup de musique et puis on se fait rapidos j'interroge en direct les gens parce qu'en fait on a complètement décalé nos temporalités, qu'est-ce qu'on fait
On peut passer un petit coup de musique.
Ouais, on passe un coup de musique, voilà, à tout de suite.
Ça veut un cahier, ça joue les caïds. Elle est naze, on a des pompes, rangez vos canifs. Danger, flamme et tête brûlée, cheer. Ça va pisser l'anse, l'emploi c'est perturbé, cheer. Écarte les meufs, c'est le rap des thugs qui tassent leur blunt. Écrase les faibles, c'est carpe diem, les tarpes et gueules. Elle veut au glock, la rue a baisé notre enfance. Ici y'a rien de tendre, rien à comprendre. C'est nous qu'on gronde à l'école, souvent foncé à l'alcool, on rêve de gronder à la mort. On vient du bloc, le black arabe adore baiser les flics. Rêve de sarcopendu et de Navarro sur la chaise électrique. C'est ça la vitesse, business de splitter. 10 frères sous drogue, 12 potes qui partent en civière. J'prie le ciel pour la pêche, lâche mon cri de guerre. Fais couler le droit rivière comme on y fait, c'est tout max. C'est pour mes têtes brûlées, les purlets durlées. Faut qu'elle m'écoute et la police hurler. Ceux qui mollissent pas, qui cogitent grave, qui font de l'argent bête, gratte.
mes têtes brûlées. Les purs, les durlets, faut qu'elle m'écoute la police hurler. Ceux qui m'olisent pas, qui cogitent grave, qui paient jamais leur tête, bradette. Quand je viens de là où on fait rimer souffrance, c'est souvent là où la haine t'en vient en pleine gueule comme boomerang. Moi je connais l'amour, je l'ai vu en coup de poing y'a un bout de temps. Je vais lui faire la bise, elle m'a dit fou quand. Je connais aussi la belle, porte une belle blouse blanche. Elle a fini dans le bloc en tournant. Les jeunes t'emmerdent comme Jean Gabin. Ils ont une grosse bite, si t'as un grand vagin. Y'a pas les solutions qu'autant un geste. On rêve de se faire tuer, c'est en sirotant un verre. Jack Daniels, Chivas, du 12 ans d'âge. Ici les coups font mal, normal on est tous en cage. Marie m'est rude, mais c'est la rue qui écrit les strokes. Le rap rempli par les prisons, c'est le proc. Donc si tu veux des barres, passe pas par la carte de barres. Enfile une cagoule, rendez-vous à la caisse et les bombes. La tête brûlée, les purs, les durs.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et donc on va continuer. Tu voulais continuer à nous dire des trucs ?
Ouais, bah, je voulais passer un dernier petit message. Hein. Du coup, c'est un peu adressé à ma grande sœur, là. J'espère que tu m'écoutes. Et bon, en fait, c'est vraiment... je suis d'accord avec toi là, dans ce que tu disais, quand tu disais que... Là, l'État, il est en train de vouloir... Non, c'est pas ça que tu disais, ça c'est moi qui le dis. L'État, là, il est en train de nous mettre cher, ce qu'il dénomine comme l'ultra-gauche, en fait. Bon, déjà, c'est absurde. Et en fait, nous, tout ce qu'on est, c'est des gens, en fait, qui veulent pas oublier, qui peuvent pas fermer les yeux sur le genre de crime comme celui qu'on a entendu, juste avant. Et en fait, on n'oubliera jamais, on pardonnera jamais, on s'habituera jamais en fait à toute cette crasse en fait. Ils ont beau dire oui, vous faites que dénoncer la saloperie du monde. En fait, dénoncer la saloperie du monde, c'est évidemment ce qu'on fait parce que en fait, ne pas la dénoncer, ce serait l'accepter. Mais on fait bien plus que ça et on leur montrera que on fait pas que ça. Et en fait, je voulais te dire merci parce que aujourd'hui, là, ils te traitent comme une terroriste. Sauf qu'en fait, c'est toi qui m'a appris ça en fait, qui m'a appris à pas oublier, à pas m'habituer à l'immonde en fait. Et ça me rappelle une phrase d'un rappeur qui, je sais pas s'il fait encore du rap, qui s'appelait Rossé. En fait, il disait quand on s'habitue à l'immonde, on en devient synonyme. Et en fait, aujourd'hui. Genre, clairement, les gens qui mettent derrière les barreaux, c'est ceux qui ne veulent pas devenir synonymes de l'immonde. Et voilà, ce sera ma dernière phrase. Bisous.
Et c'est l'occasion de le rappeler, Rossé, c'est le fils d'un des plus grands falsificateurs de papier de l'histoire française. Voilà, il y a une biographie qui est écrite sur lui, voilà. Et il y a un certain nombre d'illégalismes qui sont beaux et chouettes, voilà. Et sa biographie qui est écrite par la sœur de Rossé, sa fille, qui raconte cette histoire. J'ai plus le titre du bouquin en tête. Je pensais pas que t'allais nous le citer, mais voilà. Mais c'est un bouquin qui est très très chouette où il raconte voilà comment en fait grâce à ses papiers il a réussi à éviter la mort pour plein de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, et aussi comment après derrière un certain nombre de résistants pour la libération d'indépendance en Algérie et autres ont bénéficié de tout ça. Et donc voilà, c'était juste pour rajouter un petit truc qu'il y a des chouettes illégalismes, voilà.
Est-ce que t'as pu dire ce que tu voulais du coup?
Je pourrais encore parler une heure, je pense. Mais okay,
en tout cas, à l'occasion, n'hésite pas à revenir s'il y a besoin de reparler, de repasser des...
Je pense que ouais, dans les semaines qui viennent, il y aura sûrement d'autres proches qui viendront vous faire des petits coucous. En tout cas, tenez bon, ayez patience. Et voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Et on pense à vous très fort. Bisous, bisous.
Et de toute façon, ça sera important de continuer à étudier et puis comprendre, et tout en étant actif solidairement avec les personnes qui sont à l'intérieur, ce qui est en train de se passer, parce que voilà, c'est toujours des coups de butoir qui mettent et tout ça. Et donc après, derrière, il va y avoir aussi des conséquences sur l'ensemble du mouvement social. Et c'est peut-être ça aussi qui est important à dire. C'est qu'en fait, il faut soutenir tout le monde parce qu'en fait, à chaque fois, ils attaquent un petit truc et après derrière ils étendent donc là c'est la même chose qui va se passer parce que à chaque fois c'est la même chose mais voilà, on va peut-être pouvoir passer un petit coucou, enfin les petits coucous.
Vas-y, ouais, bah, du coup comme d'hab quand on donne un programme d'émission en début d'émission, ouais, généralement on le tient pas et du coup la réforme de la justice des mineurs, en vrai c'est important d'en parler mais on y reviendra plutôt les prochaines semaines. Dès que voilà, y a un peu de moment de dispo, c'était important de relayer ces histoires aussi.
Et d'ailleurs, là-dessus, il y a une très chouette émission de carapatage, l'émission Contre toutes les cages, qui a été faite sur les CEF et qui prend un peu toute l'histoire de l'enfermement des mineurs. Ça vaut le coup de l'écouter. Je me souviens plus quand est-ce que c'était.
Le 2 décembre.
Eh bah,
on est sur le coup.
Mais voilà. Mais ouais, donc,
sur Radio Libertaire, 89.4. Il suffit d'y aller, vous trouverez, c'est podcasté. Vous pouvez écouter cette émission, elle était super intéressante. Ouais. N'hésitez pas à y aller.
Ouais. Du coup, il y avait les dédicaces de K à lire.
Ouais, il y a les dédicaces de K. Donc... Elle dit donc, Karim, t'as du courrier, mais je sais pas si la paix va laisser passer ma jolie carte postale. Il y a un minot qui fait pipi sur un camion de police dessus. Crash test. Allez, farce l'ami. Mika, salut les affreux. J'écris pas, mais tu connais les raisons. Et nique la censure. À tous les proches, à toutes les familles, il faut que tout ça serve à quelque chose. Ils enferment les nôtres, mais ils sont censés les garder en vie. À Christophe, à Brice, Sam, Youssef, Haddad, Jean-Christophe, les Narvés de Châteauroux, les Guerrières des Baumettes et les Braves coincés à Bapaume et à Muret. Et bien sûr, vérité pour Jim Money, condoléances à toute la famille, solidarité à toutes les proches, à tous les proches. La prison tue et Rosé fait encore du rap, big up à lui.
Ouais, moi je voulais aussi faire une petite dédicace à Sylvia qui a parlé dans l'émission de l'Actu des Luttes cette semaine. Ça revenait sur la mort de Jim Money Amo, ça revenait aussi sur ce qui se passe avec l'envolée et comment la paix essaie de censurer ces histoires de violence à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est sur l'émission de l'Actu des Luttes. Pareil, il y a un blog, vous pouvez aller écouter, relayer.
Et il y avait aussi une très belle interview de la maman d'Idir, qui était ouf. C'est vraiment une très chouette émission. Donc, à aller l'écouter aussi.
Sur RFPP, vous tapez RFPP pour avoir le podcast sur Fréquence Paris Pluriel sur le site.
Ouais, moi j'en profite juste pour dire aux copains là qui allaient en cours, bah désolé, j'ai pas trop répondu au courrier, mais t'inquiète, ça arrive. Pareil, grosse dédicace à Fabrice, on s'est raté là récemment au téléphone, mais vas-y, on réessaye. Et pareil pour la femme, hein, voilà, t'inquiète, on est toujours là.
Ouais, d'ailleurs, bien joué, je crois que tu as battu le record, l'infâme, de la plus longue lettre de l'histoire. On était à 32 pages, je crois. Et en vrai, ça fait toujours plaisir. Voilà. On passe aussi un coucou à Serge, voilà, qui n'hésite pas à rappeler. La dernière fois, j'avais raté. Voilà. Et puis force à tout le monde. Vraiment. Plein de force aussi à toutes les familles qui ont vu leurs proches à l'intérieur décédés. Cette semaine, elle a été vachement intense à tous ces niveaux. Voilà, en même temps, ça file vachement d'énergie. En même temps, bah voilà, c'est dur, quoi, comme vous avez pu l'entendre à ce micro. C'est important qu'il voilà, y ait toujours plus de collectifs, qu'il y ait toujours plus de prise de conscience à ce niveau-là. Mais en tout cas... On sait que les familles, elles sont dans deuil, on sait que c'est dur, on sait que voilà, il y a une grosse marche là sur Jim Money et pour Jim Money. Et faut pas les laisser seuls après. Voilà.
On en profite juste pour dire que pour nous appeler le reste de la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Pour nous écrire, faut pas hésiter. C'est au 1 rue de la Solidarité, l'envolée-FPP 75019 Paris. Je répète vite fait, c'est l'envolée-FPP. C'est 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Et voilà. Et donc, en cette période où c'est compliqué, on sait qu'il faut souvent la pression, faut pas hésiter à nous écrire.
Grave. Écrivez-nous. Voilà, on sera content de lire tout ça. Il y a des lettres qui sont en stand-by parce qu'elles étaient longues et tout. Mais voilà.
Moi, je voudrais faire aussi un gros big up à Fatou pour le taf qu'elle a fait là sur la jonction entre les violences pénitentiaires et les violences policières. Et puis, un gros big up à tous les frérots dans les cages de la région. Et bien sûr.
Et force, courage et détermination.
Proches. Et les proches.
Et les proches. Voilà. Force, courage et détermination. À la semaine prochaine, rediffusion mercredi à 8h30.